Que fait la politique à la littérature ? C'est l'heure de Tambouille, la série qui émulsionne engagement et création. De jeunes autrices issues du Master de création littéraire de Paris 8 vous proposent des récits suivis de conversations autour de la ruralité, les transclasses,
le tofu, Mbappé, les élites, les murs de temps, les cafés parés, la couche.
Dans cet épisode, nous allons écouter L'étranger intérieur de Nadith Bellatik. Montage de textes empruntés à d'autres et empruntés en lui, mu par un même geste qui se demande ce que nous regardons, ce qui nous regarde, ce qui nous parle, et peut-être, enfin surtout, ce qui reste impossible à dire.
Le moment énigmatique où l'univers est entré en expansion, ce qui est appelé plus précisément le mur de Planck, peut être daté d'il y a 13,7 milliards d'années. Mais en amont, il est difficile d'analyser clairement l'enchaînement des phénomènes cosmiques. Pour certains scientifiques, il est absurde de parler d'une singularité initiale, d'une origine ou d'un instant zéro, car les lois connues de la physique s'arrêtent devant le mur de Planck. Le mur de Planck peut alors être simplement décrit comme étant l'instant à partir duquel nos modèles standards ne permettent plus de connaître ce qui précède.
Et si l'univers n'a pas de singularité initiale, comment pourrais-je dire que j'en ai une? Il me semble que partout et de tout temps se dresse ce mur, que tout est à distance. Le sujet de la connaissance des objets, un sujet de l'autre, l'un et l'autre d'eux-mêmes. Nous laissant à l'écart de tout, nous laissant à l'écart de nous. Pourtant, des relations se nouent. Des relations se nouent entre elles, les choses, au-delà de leur origine interdite, sans jamais qu'elles ne se soient touchées. Nous sommes sommés. Dans l'ouverture des rêveries du promeneur solitaire, Jean-Jacques Rousseau écrit
« Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même ? Voilà ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma position. C'est une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver d'eux à moi. »
Le détachement est premier. Sans doute frappé d'hubris, que ne verrais-je ma pupille décoller ? C'est une question physique. Aristote en a écrit notre première version, Max Planck une des dernières. Aujourd'hui, j'entends qu'on ne peut lutter à distance, qu'on ne peut pas dire pour les autres, qu'on ne peut pas se représenter, qu'on ne serait pas égaux. Mais beaucoup plus inversement, on pourrait aussi dire que tout est à distance, irréductible. Au mieux, le même écart qui nous sépare. Tous, radicalement, égaux face à l'écart. D'aucuns, refusant d'admettre l'irréductibilité de la distance, la pensant impossible, appellent de leur vœu un futur, créant pour lui des archives faites d'eux-mêmes, capsules lancées à quelques civilisations extraterrestres. Peut-être encore finalement trace d'un trauma de la perte, ils continuent de prétendre la stabilité de nos fondations et proposent de régler la dette. Si la matière nous est refusée, repartons du matériau. Il n'y a nulle part un au-delà de cette forme, sans fond autre qu'elle-même. Rien n'est solide, tout tremble, tout trouble. Et le trouble n'est pas le genre de chose qui se récupère. Il n'y a que des tangentes. Si les possibles étouffent, l'impossible permet. Alors filons, vite à la surface. Dans son roman Hors bord, suite de fragments qui ne se ressemblent pas, sinon qu'ils paraissent rebondir fugacement sur une surface qui, tissée, devient commune, et sachant sans doute que rien ne permet autant de vivre que d'habiter les espaces impossibles dont on se fait un monde, Renata Adler ouvre par
« Personne n'est mort cette année-là. Personne n'a prospéré. Il n'y a eu ni naissance, ni mariage. 17 satires révérencieuses ont été écrites, démolissant un cliché et créant sans doute un genre. C'était un rêve, bien sûr, mais j'ai l'impression que la plupart des choses essentielles sont celles que vous apprenez dans votre sommeil. La parole, le tennis, la musique, le ski, les manières, l'amour. Au réveil, vous vous lancez, vous regimbez peut-être un instant, et voilà, vous avez franchi l'obstacle. Vous avez acquis leur rythme une bonne fois pour toutes, la nuit, en dormant. La ville, bien sûr, peut tout anéantir. Tellement d'insomnie, tellement de rythmes qui s'entrechoquent. La vendeuse, le propriétaire, les invités, les passants. 16 formes de circonstances sociales par jour. Ici, tout le monde a le pouvoir de remettre votre vie entière en question. Trop de gens ont accès à votre état d'esprit.
Avant de continuer plus loin.
Parfois, la moindre action, si intime ou inconsciente qu'elle soit, devient politique. La personne avec qui vous vivez, comment vous êtes coiffé, si vous vous mariez, si vous insistez pour que votre enfant apprenne à jouer du piano, les marques des produits rangés sur vos étagères, tout cela se transforme en décision politique. Il arrive aussi qu'aucune action, ni campagne, ni distribution de tracts, ni déclaration, ni scandale, ne soit investie de sens politique. Les gens qui savent le moins différencier ces moments, politiques et apolitiques, sont généralement les plus passionnés de politique. À 6h du matin, Will est sorti acheter une brique de lait en jean et pull effiloché. Un bus de touristes est passé par là. Le mégaphone était tourné dans sa direction. « En voilà un !» a-t-il entendu. Cela est arrivé dans les années 60. Depuis, il se pose la question. « En voilà un quoi ?»
Et à rebours, je lis la dernière phrase du fragment précédent. Pas de conclusion à en tirer. Les solitaires voient un double sens à tout. Alors continuons. Le temps se remonte comme le sens, en se multipliant. Et même si je ne peux pas reconnaître tout ce qui s'est passé, je peux dire qu'il ne s'est pas rien passé. Je veux dire, des formes ont été inventées, jusqu'à innerver rétroactivement l'espace conçu jusque-là. Ainsi, la forme est mémoire. Mais peut-être, cela n'a-t-il pas suffi pour en revenir. Parce que je me sens après-après. Je suis après-après l'échec. Après-après le silence. Après-après la disparition. Après-après le document et l'archive. Mon écriture est un endroit d'où je ne reviens pas. Il n'y a que des miroirs en ruine et des vertiges infinis qui se renvoient les uns aux autres, sans que mon corps, disparu d'après la disparition, ne puisse servir d'obstacle.
On était assez mince pour passer par la fenêtre et nous laisser glisser le long du train en marche. C'était très risqué, car les Allemands montaient la garde dans les tourelles construites au-dessus de certains wagons. J'avais noté qu'un wagon sur trois était occupé par des SS, mais nous étions déterminés. Mon frère devait sauter en premier, puis moi. Nous aurions avancé pour rejoindre mes cousins qui devaient sauter après nous. Mon frère n'a pas eu le temps de mettre une jambe dehors. Déjà, tous les gens dans le wagon s'étaient réveillés et ont commencé à crier, à pleurer. Ils étaient sûrs que nous allions mourir et qu'eux-mêmes seraient tués pour nous avoir laissé nous enfuir. Le père de Dario, Milton, répétait sans cesse. Ils savent combien nous sommes. Quand le train arrivera à destination et qu'ils verront que vous manquez, ils nous tueront tous. En fait, ça n'a rien changé. Ils sont tous morts. Mais qui aurait pu le savoir ? En les voyant pleurer, en voyant ma mère et mes sœurs terrorisées et affolées, on s'est convaincu que ce n'était pas juste de les laisser seules et de chercher à nous sauver.
Je tente de recoudre mon visage au monde. De cette couture, le livre est le fil et tisserand. Le corps qui dira un nom impossible sinon. Métis-tissage. Alors on écrit, et le livre à venir permettra de réduire l'écart entre le monde et soi, entre sa marche et ce qu'il a nié pour la continuer. Le livre lui dira « ça a existé ». Par lui, le monde reprendra sa marche par nos noms dédoublés, causés à nous, cousus à lui. Mais qu'un faux pli s'y glisse et le temps grimace. Il vous fait alors cohabiter avec vos semblables dans des temps arythmiques. En attendant, j'ai vu l'écart. Et peut-être seul lui m'intéresse encore. Il est l'origine même, ouverture à la surface. Il est cette sphère intellectuelle dont le centre est partout et dont la circonférence est nulle part. Je ne sais toujours pas par où se sauver. Je ne peux que jouer là où il faudrait déjouer. Ce qu'il s'est passé, c'est notre mort, c'est leur mort. C'est celle de Barthes qui dit la sienne, qui dit celle de Proust, qui dit celle de sa mère, qui dit celle de Dante, qui dit celle de Béatrice. Et une acception étymologique du mot « théorie » signifie « regarder une fête ». Et je me rappelle avoir entendu dire que la vie en était une. Et je me rappelle aussi qu'était étrange l'endroit où je l'ai entendu. Alors, même si persiste la sensation que toutes les positions me sont refusées, je ne détourne pas le regard. On a déjà dit la fin du monde. Elle a déjà été vécue. L'apocalypse est passée, et c'est le futur, tapis derrière moi, qui me hante, de ne savoir quel espace il m'inventera. Et de ne pouvoir naître de cadavre, je ne vois toujours pas ma mort. Et seul ce qu'on voit nous regarde. Et vous avez déjà vu les yeux et l'air détaché d'un mort ? Rien ne s'en approche. C'est comme s'il savait que l'extérieur avait fini de déborder en lui. Et pour moi, quel est l'horizon des événements ? Ne suis-je que ce qui est arrivé, ou seulement ce que j'ai pu en retenir ?
Ainsi, l'alternative ne serait pas tant entre deux types d'hommes, l'homme à qualité et l'homme sans qualité, qu'entre deux modes de rapport entre le sujet et ses qualités, qui sont fonction de la latitude où on choisit de vivre entre le personnel et le général. Ulrich est justement dans une position telle qu'il se sent étranger à lui-même, c'est-à-dire qu'il ne s'identifie pas à ses propres qualités, étant dans un relatif détachement à leur égard. Ce sentiment d'étrangeté à soi-même rejaillit sur le rapport de l'individu au monde, celui-ci devenant incapable de se sentir concerné par les événements et de les revêtir d'une signification personnelle. À l'inverse, l'homme privé rapporte tous les événements à sa personne propre. Il leur donne un sens intime, s'approprie le monde en faisant de lui un familier, son monde. La possession de traits de caractère est donc ambivalente. D'un côté, elle donne une consistance à la subjectivité, ce qu'Ulrich désigne également comme le sens de la narration primitive. De l'autre, elle la menace de désintégration, dans la mesure où la généralité et la communauté de ses qualités mettent en péril la singularité de l'individu. L'habitant d'un pays a toujours au moins 9 caractères. Un caractère professionnel, un caractère de classe, un caractère sexuel, un caractère national, un caractère politique, un caractère géographique, un caractère conscient, un inconscient, et peut-être encore un caractère privé. Il les réunit en sa personne, mais s'en trouve dissocié, et n'est plus finalement qu'un petit vallon creusé par cette multitude de cours d'eau, vallon dans lequel ils viennent s'écouler pour en ressortir ensuite et remplir d'autres vallons avec d'autres ruisselets. C'est pourquoi tout habitant de la Terre possède encore un 10e caractère, qui n'est rien d'autre que l'imagination passive d'espaces non encore remplis. Ce caractère donne à l'homme toutes les libertés, sauf une. Celle de prendre au sérieux ce que font ces autres caractères et ce qui leur arrive. Donc, en d'autres termes, la seule liberté, précisément, qui pourrait remplir cet espace.
Il ne m'est jamais rien arrivé. Plutôt, je me suis efforcé de rester inerte. J'ai longtemps eu le fantasme de vivre en laissant le cerveau sans sillon, sans trauma. Que les idées continuent de s'y dérouler, de s'y émanciper aussi librement qu'au premier jour. Me rappeler des conditions matérielles requises pour maintenir l'ouverture. Voyez, un champ, perclus de sillons. Ce qui y arriverait ne manquerait naturellement pas, du fait de la gravité, de continuer son chemin vers les fonds ainsi creusés. Bientôt, le champ ne serait rien d'autre que ses sillons. L'épousant, son devenir ira jusqu'à s'y réduire. Ne restera plus alors qu'à radoter, qu'à ne plus pouvoir finir de tout confondre, naviguant à l'infini les mêmes sillons devenus obsessions. Espace rétréci à l'agonie. Entendons-nous bien. La solution n'est pas impossible. La solution est l'impossible. De ne pouvoir éviter de les emprunter, que n'utilisons-nous pas nos sillons contre les autres sillons, ceux du genre à asseoir leur pouvoir, à graver les assises, contre les autres écritures, celles qui instituent, les codes civils, celles qui disent des noms, les inventant, et qui disent que les noms qu'elles disent sont vrais et uniques. Et l'écriture de soi, que fait-elle si ce n'est aussi instituer l'existence du soi? Ici, dans ces espaces non encore remplis, ni privés, ni communs, ni quoi que ce soit d'autre, et pourtant ici, les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Ou du moins, ce n'est pas la question. Je pourrais changer les mots, en inventer d'autres, que cela ne changerait rien. Et peut-on être différent d'un autre qui n'a pas existé? Que fait-il, ce texte qui ne changerait pas de changer? Quel serait-il? Qui serait-il?
Si le daimon est avant tout le metaxu, figure de l'intervalle, du juste milieu, de la médiation entre l'humain et le divin, il est aussi, et au moins autant, médiateur entre l'intériorité et l'extériorité, et de même entre l'intériorité et l'altérité. Le démon vient dire l'intériorité, autrement que comme intimité et immédiateté. Il n'est pas le plus proche, le mieux connu, ou du moins le mieux connu de moi, et ce dans la mesure même où il demeure, pour les autres, caché ou secret. Mais bien plutôt ce qui, tout en étant en moi, m'échappe et m'excède. Ce qui, donc, quoi qu'en moi, ne peut être dit moi, ni même mien, parce qu'il se soustrait tant à ma conscience qu'à mon emprise. Il est ce qui, dans l'intériorité, ne se donne plus dans l'ordre du même, de l'identique, du familier, mais de l'étrangeté. Il est, en quelque sorte, l'étranger intérieur.
Merci beaucoup Nadide pour ton texte. On va en discuter avec
Emmanuel,
Nassera
et moi c'est Louis. Alors pour commencer, moi ce qui m'a beaucoup frappé dans ton texte, c'est qu'on n'est pas vraiment dans la théorie ni la poésie, ou en fait je devrais dire on est à la fois dans la théorie et la poésie est aussi une forme de, alors là je sais pas, écriture personnelle ou de l'intime quand même, parce qu'il y a quand même une première personne qui arrive. Et on ne sait pas trop où on est en fait, on est un peu dans les interstices. J'ai l'impression que tu nous emmènes dans des endroits et tu contredis aussi beaucoup. Donc il y a cet effet aussi de perte en fait du lecteur. Je sais pas si tu peux rebondir là-dessus.
Ouais, merci pour la question. D'abord, je voudrais remercier Céline qui a lu avec moi ce texte. Par rapport au fait qu'on ne sait pas où on est, je crois que ça résume
très bien où j'en suis. C'est-à-dire que moi-même, je ne sais pas où je suis. C'est-à-dire dans quel espace, dans quelle histoire je me situe. Et donc, c'est peut-être ça que j'essaie de donner à voir plutôt que de prétendre autre chose. Et j'ai trouvé cette modalité, effectivement, qui se situe plus dans les interstices que dans une matière propre. Et donc, on a l'impression que ça s'échappe toujours dès que je pourrais me situer dans un espace construit ou donné. Et donc, ouais, il y a une sorte de, peut-être, ouais, une impression de fuite en avant et qui passe par, ouais, par toute une série de motifs et modalités différentes. Donc, la théorie, la poésie et effectivement, cette écriture de soi. Mais c'est la même chose, sans espace, le soi aussi est peut-être pas unique. Et donc, c'est dans cette multiplicité que j'arrive à dire quelque chose, quoi.
C'est vrai, quelque chose qui est frappant dans ton texte, c'est que c'est une errance, c'est très intime. Tu dis rien d'intime, en fait, rien du tout en termes de mots. Mais en fait, c'est très intime parce que c'est une errance très intérieure, en fait. On est presque, j'ai l'impression qu'on suit les chemins de tes synapses et c'est cette espèce d'errance et on sait pas trop où on est, quoi. Il y a toujours ce thème de la distance, on n'est pas là, on n'est non plus là, il y a le mur, il y a ce thème de l'impossible. Donc c'est à la fois très beau et déconcertant.
Ouais, je crois que c'est intime parce que je dis ce que je vois et je dis pas que je vois la réalité, mais c'est, en tout cas, ça procède d'une certaine vision. Et donc effectivement, ce mur, des fois, c'est comme si j'imaginais, je vais très mal le paraphraser, mais une sorte de, je sais pas, des fois, ça me fait penser à ce que Jung dit sur l'inconscient collectif. Et je vais tellement mal le paraphraser que je vais rien dire d'autre que cette ref. Et puis, pour passer à autre chose, mais ce que je veux dire, enfin, pas passer par autre chose, mais pour développer cette idée, sur ce mur, j'ai l'impression que je vois qui est dans une pièce qui est, en fait, dans l'obscurité plus que dans la lumière. Je vois des motifs. Et je sais que ces motifs sont parcellaires et fragmentaires. Et donc, je sais que je ne vois pas leur forme entière. Et pour autant, je ne doute pas qu'elles existent, mais que je n'y ai pas accès. Et donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de les décrire, ces motifs que je vois. Et par le fait de les décrire, ce qui se passe, c'est que, en fait, toute cette citation que j'ai faite, enfin, de m'appuyer autant sur d'autres textes que les miens, c'est aussi parce que au travers de mes lectures, je vois des motifs dans l'histoire et dans le temps, dans des temps et dans des espaces très différents les uns des autres, des motifs que je vois comme étant communs, malgré qu'ils appartiennent à des histoires différentes et à des temps différents. Et donc c'est toujours de l'ordre de l'apparition, de voir ces motifs communs. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un cheminement à travers cette communauté de motifs, malgré que je sais qu'ils sont parcellaires, je peux trouver une modalité d'expression là.
Pour rebondir sur ce sujet, je ne sais pas si tu connais l'atlas mnésique de Abby Warburg, parce que c'est exactement, enfin, son travail, il va rassembler des œuvres d'art éloignées dans le temps, et il va assembler leurs images et faire tout un nouvel atlas, une nouvelle façon de recomposer l'histoire à partir de motifs, de formes, de contrastes, etc. Et du coup, là, en t'écoutant, ben, je me dis, ça ressemble quand même étrangement aussi à ce que tu essaies de faire. Et je ne sais pas si à un moment donné tu l'as croisé dans tes études, sur l'histoire notamment, et si ça a pu influer ou si ça t'a nourri.
Oui, je l'ai croisé. Alors, j'ai essayé de le parcourir et je n'ai pas réussi. C'est très complexe. Mais en tout cas, ça m'a attiré parce que j'ai aussi vu quelque chose qui ressemblait à ça. Et je l'ai aussi découvert par l'intermédiaire de Georges Didier Huberman, qui est un historien de l'art, et qui a beaucoup parlé de ça. Et lui aussi, que j'ai entendu par ailleurs dans une autre conférence, qui donnait sur Maurice Blanchot, et qui parlait aussi de ces motifs communs et d'avancer de ressemblance à ressemblance. C'est-à-dire que j'avance dans mon texte de ressemblance à ressemblance, mais des ressemblances qui ne sont pas données. Des ressemblances qui peuvent paraître, pour revenir à la première question de Louis, contradictoires par moments. Mais c'est, comme il le dit, et je le cite parce que j'avais noté cette phrase qui était très belle, il dit qu'il y a deux sortes de ressemblances. Il y a une ressemblance qui va de soi, et il dit celle-là est seulement un sauvetage des apparences. L'apparence, ça nous apaise, ça nous éloigne toujours du hic. Et j'ai l'impression que moi, je ne suis pas dans une démarche où j'essaye d'apaiser les choses, comme j'ai dit. Je suis, et c'est peut-être là où ça touche l'intime, c'est quelque chose qui est trouble pour moi aussi. J'essaie juste de donner à voir ce que je vois moi-même.
Et j'ai l'impression que cette démarche-là, de rendre compte du trouble, ça te permet de déployer une poétique qui est en particulier marquée par un recours à la négation. C'est-à-dire que ça avance par retranchement. Et j'aimerais bien t'entendre là-dessus parce que il y a peut-être aussi derrière une forme de discours peut-être sur le monde, un discours politique où c'est comme si il y avait quelque chose qui échappait. Et je voulais t'entendre là-dessus, en fait, cette démarche-là de retranchement, d'être sur ce qui ne peut pas être saisi. Et du coup, il y a une langue qui permet, en fait, ça. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été pensé, mais qui, effectivement, à travers cette modalité de la négation, m'a permis... de rendre compte de ce dont j'essaie de rendre compte, c'est-à-dire que je pouvais pas affirmer grand-chose. Et c'est très étonnant d'être dans cette position, en fait. C'est comme de sentir au fond de soi qu'on veut dire quelque chose, mais qu'on trouve absolument aucun appui. C'est très physique, quoi. J'avais aucun appui pour le dire, et donc d'avancer plutôt que d'ajouter quelque chose, d'ajouter des affirmations plutôt que d'affirmer quelque chose. Eh ben, ce trouble, il a pu s'exprimer. Enfin, c'est pas tant un trouble, mais c'est cette obscurité. Elle a pu, à un moment donné, advenir sans se travestir, j'ai l'impression, à travers la négation. Donc, effectivement, d'être plutôt dans le retranchement, de pas faire semblant que j'ai une idée de ce qui se trouve au-delà du motif parcellaire que j'arrive à voir. C'est-à-dire que je ne présume rien. Enfin, en tout cas, j'essaye. Des fois, j'y arrive pas, mais en tout cas, j'essaie de rien présumer en termes de forme au-delà de ce motif. Enfin, pardon, j'arrête pas de dire motif parce que je vois, je sais pas, il faut imaginer, je sais pas, comme un tag sur un mur et dont on verra seulement une partie et l'autre partie serait cachée. Et moi, je vois cette partie-là. Et donc, ouais, avancer par retranchement, quoi. Avancer par d'obscurité en obscurité, presque.
Tu parlais de pas savoir où te situer, de ne pas savoir où tu es. Et je me demande si, parce que chez toi, les citations prennent beaucoup de place sur le texte, elles ont une place même prépondérante, et donc je voulais savoir si cet entre-deux, être entre la citation et la création de texte, était justement un endroit plus confortable pour toi, c'est-à-dire ni à un endroit ni à l'autre, entre ces choses-là.
Ouais, c'est ce que je disais sur le fait de trouver des appuis. Je pense que ces citations, c'est des appuis, c'est une matérialité. C'est presque la matérialité du monde. Pour moi, elle passe par là, par la littérature. Et c'est ce qui me permet... Ouais, c'est ce qui me permet d'écrire, en fait. J'écris pas à partir de rien. Et c'est pas que j'écris à partir d'histoire, c'est que j'écris à partir de la littérature même. Alors que cette littérature soit poétique ou théorique, en fait, c'est de l'ordre de la même matière, de ce que j'essaye par ailleurs. Enfin, je passe par la même modalité de l'écriture. Et voilà ce que je peux dire de ça. Et d'ailleurs, c'est un tel travail que ça pose des questions, parce que, par exemple, la plupart des citations, je ne dis pas d'où elles proviennent dans le texte, et ça me pose problème, enfin, d'un point de vue, de plein de points de vue différents. Peut-être le premier, ce serait de pouvoir rendre justice à ces textes que j'ai trouvés et que j'ai découverts, et dont j'ai reconnu des motifs communs, et c'est pour ça que je les ai incorporés. C'est parce que c'est de me rendre compte que mais cette personne et cette personne et cette personne, en fait, on essaye tous d'exprimer, on est tous dans la même pièce, quoi. On essaye tous d'exprimer la même chose, on est tous devant ce mur, et on fait ce qu'on peut, et des fois, on croise la même communauté de motifs. Et en fait, là, il dit ça, et je suis au même endroit que lui. Je ne sais pas où je suis, mais je suis au même endroit que lui. Et en fait, ça me permet de construire une communauté. Et donc... je fais un petit écart là, mais c'est pour dire que c'est quand même la question de... Ouais, je sais pas, en fait, ça apparaît par là pour moi une façon de vivre la communauté sans passer par le moi. Que d'emblée, ce soit donné dans une relation. Que ça se construise que, comme si le nous apparaissait avant le jeu. Mais que c'est un nous fabulé et fantasmagoré du fait que... Voilà, c'est une autre matérialité du monde, en fait. Et d'ailleurs, par rapport à ces citations que je ne cite pas, on les mettra quand même sur la page du site R22 pour que les auditeurs puissent les retrouver.
Donc en fait, juste pour rebondir là-dessus, tu crées ton petit monde, c'est ça, avec ces citations. Et c'est à partir de lui que tu penses, c'est ça? Tu mobilises toute une communauté quand tu dis que tu mobilises une communauté?
Alors je ne dirais pas comme ça, parce que créer son petit monde, j'ai l'impression qu'on est dans un jeu. Et là, ce n'est pas tant un jeu, c'est que je reconnais un monde. Et il s'agit pour moi de... Oui, Louis me souffle des jeux, et c'est vrai que c'est ça. C'est qu'en fait, un monde m'a été donné par mon éducation, par la société. Un monde est exprimé, est donné à la naissance, comme chacun. Et je ne me retrouve pas dans ces discours. Enfin, en tout cas, là, il y a une distance que je note très flagrante entre les discours théoriques et mon intime. Je ne me sens pas en phase. Souvent, je me dis, mais en fait, ces discours politiques, ces discours théoriques, ces discours identitaires, ces discours, en fait, ils m'assignent et ils m'empêchent, plutôt qu'ils permettent d'exprimer une intériorité. Et donc, c'est plutôt au travers de cette recherche-là, enfin, de ce constat-là, d'aller voir des mondes possibles. Et dans la littérature, qui est très plurielle, je vois des mondes possibles. Et donc, ce n'est pas se créer un petit monde, c'est trouver des mondes possibles qui existent par ailleurs. Au-delà des discours qu'on nous dit, a priori.
Tu as dit avant, quand tu parlais, j'avance par retranchement, quelque chose comme ça. Et je trouve que ça définit assez bien ce que tu fais dans ton texte, parce qu'en fait, avancer par retranchement, c'est un paradoxe, parce que tu avances et tu recules à la fois. Et voilà, donc c'est un peu cette poétique du paradoxe, ou peut-être de l'impossible, dont on a déjà parlé. Et j'avais assez envie qu'on parle de... là, tu as lancé un peu le sujet de l'identité. Il y a cette première personne dans ton texte, qu'on ne sait pas vraiment où elle est, mais en même temps, là, tu as dit avant qu'on ne sait pas où elle est, mais elle te permet d'être quelque part. Et on sent ça dans ton texte, tu dis à la fois, c'est impossible d'écrire, mais en même temps, il y a cette phrase, le texte coud mon visage à la face du monde. Donc il y a quand même cette tension qui te... Tu dis l'impossible, mais il se passe quand même quelque chose. Je ne sais pas si tu peux rebondir là-dessus, si c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que cette première personne, il y a quelque chose de... À la fois, il y a un floutement, parce que tu refuses toute catégorisation. Tu parles de aussi... Tu mélanges avec le... Il n'y a pas d'origine du monde. Tu mélanges avec des échelles. Mais du coup, il se passe quand même quelque chose, là, comme tu as dit avant.
Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que... Enfin, ce qui est évident, c'est que le... Il y a un jeu. Enfin, j'ai un corps. Mais après, à partir de ce corps, je crois que on pense trop vite l'unicité de la personne, alors qu'en fait on est multiple. Enfin, c'est d'enfoncer une porte ouverte que de dire ça. Mais il y a quand même quelque chose que je ne peux pas nier, c'est que malgré que ce soit peut-être que j'ai l'impression que cette histoire est empêchée ou quoi que ce soit, il y a quand même un jeu. Et c'est à partir de ce jeu que je m'exprime. Donc il ne s'agit pas de prétendre autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal à la création de personnages. Il n'y a pas de personnage dans mon texte, parce que c'est comme si je... Enfin, en tout cas, c'est la façon dont je le vois. C'est pas pour ça que j'ai des problèmes avec les personnages en général dans mes lectures. Mais il n'y a pas que le jeu, il y a le « on » aussi, beaucoup, qui revient comme pronom dans mon texte et qui me permet aussi beaucoup. Et peut-être une recherche du « nous » encore plus importante pour moi que la recherche du jeu.
Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de personnage. Et justement, il n'y a pas vraiment de narrateur. Enfin, il y a je ne sais pas si on peut parler de narrateur. On est en tout cas dans l'ordre du fantomatique, quoi. On change de pronom, il apparaît, il disparaît.
Oui, il faut pas qu'il s'installe. Et pour reparler de ce mur, et comme tu dis, le mur de Planck, c'est un peu ça que nous a permis aussi, j'ai l'impression, des découvertes en physique quantique et qui ont énervé toute une autre série de champs de savoir. Moi, j'ai étudié l'histoire à la fac, et donc c'est des sciences humaines qui ont été impactées par les découvertes de la physique quantique. C'est-à-dire, le plus simple, c'est qu'on pourrait dire que rien ne détermine plus une réponse que sa question. Et donc, c'est pas tant que l'intérêt, c'est de dire qui est le jeu, c'est comment il se pose. Et comment il se pose par rapport aux autres, et par rapport à l'histoire, et par rapport au monde, enfin, dans quel monde il se situe. Et donc, c'est plus un... L'emphase est donnée sur la relation, sur les rapports entre les choses, plus qu'entre le jeu qui pourrait s'autodéfinir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une double vectorisation. Donc c'est, pour employer un terme barbare, donc c'est plutôt de penser le rapport de soi vers l'extérieur et surtout peut-être premier de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc effectivement, c'est trouble et c'est, C'est pas souvent clair. Comme la fin de ma réponse.
Peut-être une dernière... Enfin, je sais pas s'il y aura d'autres questions, mais ce que tu évoques, ce jeu de... Enfin, c'est peut-être... Je sais pas si c'est un jeu, mais ce système de choses trappes et de... Oui, de retranchement. Et ça me fait penser que c'est à contre-courant, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui où on est complètement dans un univers d'assignation, d'opposition et des choses très tranchées. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement pour ou extrêmement contre, et les nuances sont complètement effacées, et ça crée une société particulière, celle dans laquelle on est en train de vivre, et des conflits qu'on est en train de vivre. Et j'ai l'impression que justement ton texte et ce que tu nous expliques, ça vient déjouer ça vient nous pointer ce qui se passe et nous dire en fait il est beaucoup plus difficile de saisir les choses, il est beaucoup plus difficile de définir les choses et remettre le trouble de cette manière aussi, de mettre le trouble en exergue de cette manière-là. J'ai l'impression que ça nous parle de notre temps présent. Je ne sais pas si tu partages cette impression ou pas.
Je suis content que tu aies cette impression, en tout cas, parce que ce à quoi ça me fait penser d'emblée, c'est que c'est encore cette question d'appui, c'est-à-dire que j'ai l'impression que j'écris plus un texte en réaction qu'en action, et qu'effectivement c'est l'extérieur, on se demande que fait la politique à la littérature, et c'est vraiment ça, c'est un texte qui est en réaction à d'autres choses trappes que je vois par ailleurs. Et donc, et ce semblant de cohérence en fait, le mot qui me vient là c'est la cohérence, et donc j'essaie de trouver une autre forme de cohérence, et qui est peut-être pas une cohérence... temporelle, c'est-à-dire que je trouve beaucoup plus de liens entre des choses qui apparemment ne sont pas liées entre elles que les choses qu'on nous impose qu'on essaye de naturaliser toute une série de comportements qu'on veut rendre cohérents et logiques. Et peut-être que j'essaie de me situer contre ça.
Ce que je voulais dire par rapport à la remarque de Nacera, c'est que je pense que tu parles de ce qu'on de paroles situées, etc. Et enfin, je ne sais pas si c'est ça que tu disais, que Nadine déjoue un peu.
Surtout, par exemple, ce qui se passe avec les nouvelles technologies, les intelligences artificielles, les bots, où on va utiliser les antagonismes qui peuvent être présents dans un groupe social, mais ils vont les exacerber à un point où c'est décorrélé même du réel. C'est-à-dire qu'on va... créer un ennemi, ça a toujours existé, mais là on va créer un ennemi en l'espace de quelques instants, et l'injonction va être de se positionner pour ou contre constamment, et du coup d'avoir une lecture du monde, une lecture du réel qui efface toute complexité, toute nuance pour être dans le pur et simple antagonisme. Alors c'est la sensation que j'ai quand je lis l'actualité, en tant que citoyenne, c'est la sensation dans laquelle je me retrouve, et j'ai l'impression que remettre de la complexité et reparler de ce qui en nous est inaccessible et de ce qui dans le monde ne peut être atteint. Ça permet de déjouer la simplification extrême dans laquelle on essaie de nous coincer.
Oui, et puis c'est la question d'effectivement qu'on sépare les individus, on sépare des groupes, alors que en récupérant bien souvent, et donc c'est aussi ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire que ça puisse pas être récupéré, et donc de tisser les choses de telle façon que ça apparaisse comme un même monde, parce que c'est ce que je pense profondément, c'est-à-dire que c'est ce qui est compliqué, on essaie de réagir contre la mondialisation, on voit les affres que ça crée, les effets que ça crée, et pourtant, tout en le critiquant, il faut pouvoir malgré tout dire qu'il s'agit du même monde. Et donc peut-être parler, ça me fait penser tout de suite à Edouard Glissant qui parle plutôt de mondialité plutôt que de mondialisation, et de, ouais, de voir comment ça joue au niveau des relations et comment... Ouais, du tout monde, c'est ça, exactement. Le tout monde.
Dans ton texte, il y a ce mouvement de... À la fois, on ne sait pas d'où tu parles, mais en même temps, tu parles que de relations. Donc, ça veut dire qu'il y a un point géographique quand même, même si on ne sait pas où c'est. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, merci beaucoup à tous pour la discussion et rendez-vous au prochain épisode.